Direct en jeu, le radio insolite sous le soleil merveilleux. Une petite pensée aux Villeurbanais qui sont toujours à 3-4 degrés de température, alors que moi, je suis toujours en bras de chemise. Je me demande, quand je vois certaines photos, comment je vais faire pour rentrer. Parce que franchement, dans le sud, les gens sont gentils, merveilleux, fantastiques et tout. Et je suis, alors je suis, attention, dans un parc, le parc du Cigalou, et je suis avec.
Bonjour, je suis Laurie Mouros, responsable du musée de Bormes-les-Mimosas et du service culturel de la mairie.
Moi, je peux commencer tout de suite par mes questions un peu originales, insolites. Je peux ?
Oui, oui, je vous écoute.
Comment vous faites pour résumer 2400 ans sur 3 étages ? Là,
Ce n'est pas évident. On a eu beaucoup de discussions en interne pour choisir les épisodes les plus intéressants qui allaient parler à la fois aux Bormiens, mais aussi aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. L'idée étant de parler de périodes historiques phares comme l'Antiquité, comme le Moyen-Âge, etc. L'époque moderne aussi, et puis d'épisodes qui se rapprochent plus de nous, comme le débarquement de Provence ou des épisodes de nos jours, comme pour le fort de Brégançon, sur la présentation du fort comme lieu de villégiature des présidents. Donc l'idée était de présenter des périodes et des épisodes qui pouvaient parler à la fois aux Borméens, qui allaient leur montrer comment on en est arrivé à notre Bormes d'aujourd'hui, mais aussi des épisodes qui puissent parler à tout un chacun, à tous les Français, à tous les Varois. Voilà un petit peu l'idée de base.
Alors, si j'ai bien compris, Bormes-les-Mimosas, ça commence dans les années 50 avant Jésus-Christ, ou c'est encore avant ?
Alors, il y a des traces d'habitation certainement avant, mais plus certaines, voilà, autour de moins 50 avant Jésus-Christ, avec l'installation des premiers Bormani sur les hauteurs de la commune, hein, bien au-dessus, on va dire, du village actuel, plutôt soit entre le lieu de Notre-Dame de Constance actuel ou de l'autre côté de la colline. Voilà, on a des suppositions sur ces deux emplacements.
Je croyais que c'était les Borméens, les Bormani.
Voilà, c'est le premier peuple, c'est comme ça qu'on appelait les premiers Borméens, les Bormani, peuple des Bormani.
Bon, ils arrivent d'où ? Ils arrivent d'Italie, de Sicile, de Corse ?
Ils arrivent un petit peu de partout. mais si vous êtes plus intéressé, voilà, il faudra venir au musée pour découvrir leur histoire.
Excellente réponse. Bon, il paraît qu'il y avait l'amiral Nelson qui traînait encore dans les parages. Encore lui, c'est pas possible ?
Voilà, on a l'épisode en 1804 dans la rade de Bormes d'un beau combat naval, on va dire, entre la flotte française et la flotte de Nelson, en effet, qui traînait, on va dire, le long des côtes varoises et qui a donc encouragé l'armement de ces côtes, justement. Et sur Bormes, voilà, on a eu un épisode assez important qui le concernait.
On va parler de vous maintenant un tout petit peu, parce que bon, au premier abord, le musée fermé, semblerait-il.
Oui, tout à fait. Donc, on a fermé en mi-décembre 2021 pour permettre l'installation des travaux, de grands travaux qui vont restructurer, on va dire, la bâtisse pour permettre l'installation du nouveau parcours en réalité augmentée et la création de nouvelles salles d'exposition temporaires, ainsi que l'ouverture des 5 niveaux du musée, quand jusqu'à aujourd'hui, il n'y en avait que 2 qui étaient ouvertes au public.
Alors, je vous remercie de me rencontrer parce que justement, ce qui est intéressant, c'est là, on est dans les coulisses. Question très basique, c'est quoi le rôle ? C'est quoi le travail d'une directrice d'un musée ?
Habituellement, je dirais que c'est en lien avec le directeur des collections, qui est autre que le maire, hein, puisque nous sommes un musée municipal, et bien de veiller à la bonne conservation des œuvres, à leur restauration, étant donné qu'on a un musée de France, on a des réglementations à suivre et on est très bien suivi aussi par la Direction régionale des affaires culturelles et notre conseillère des musées en région. Donc il y a toute la partie conservation et restauration de notre collection, mais aussi le montage d'expositions et donc la création autour de la partie scénographique et le choix des œuvres pour les futures expositions. Et en plus de cela, bien sûr, il y a toute la création de projets de médiation, de projets avec les scolaires, avec les autres services de la commune, pour à la fois valoriser, mais aussi démocratiser les actions du musée.
Le musée, c'est une bâtisse ancienne ?
Oui, tout à fait. C'est une bâtisse qui est à peu près datée du milieu du XVIIe siècle, qui est au tout départ était divisée en plusieurs appartements. Et puis, dans les années 1930, voilà, il y a une famille, une riche famille d'antiquaires parisiens, famille Metzeger, qui rachète la bâtisse et en fait une maison très cossue. Mais la bâtisse, elle sera revendue par Madame Metzeger, veuve, à la commune dans les années 80 pour que celle-ci puisse y installer son musée qui lui existait déjà, mais dans la mairie d'époque, depuis 1926. Voilà. Donc c'est une bâtisse qui a eu plusieurs vies et qui en aura bientôt une nouvelle.
Le musée est fermé, il va rouvrir en octobre 2022. Vous passez de 2 à 5. C'est-à-dire qu'il y avait 2 étages avant, maintenant il y en aura 5.
Oui, tout à fait. Voilà,
ça vous occupe un peu, c'est bien.
Voilà, on est plein d'enthousiasme autour de ces nouvelles salles qui vont nous permettre de montrer à la fois tous les 2400 ans d'histoire de la commune et aussi notre collection sur laquelle on a envie de mettre encore plus d'énergie, voilà, pour la présenter de manière dynamique, mais aussi la compléter avec peut-être des prêts d'autres institutions, voilà, pour enrichir et puis faire écho à la création artistique qui a eu lieu dans notre région entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle. Donc ça nous offre beaucoup de possibilités d'ouvrir de nouvelles salles. Et surtout des salles insolites et des endroits insolites qui étaient fermés jusqu'à présent, avec notamment notre terrasse panoramique qui était un bijou qu'on ne pouvait pas ouvrir jusqu'à présent et qui sera offerte au public avec beaucoup de plaisir.
Je sais qu'on est en radio, moi j'ai vu la photo, dites-moi, qu'est-ce qu'on verra de la terrasse panoramique? Je crois que je vais rester là, je ne vais pas rentrer.
On a une très très jolie vue à 180 degrés sur la rade de Bormes. On aperçoit au loin aussi bien sûr les îles. Et puis si on se tourne aussi, on a une vue imprenable sur le château. On le voit comme ça de nulle part. Et on aperçoit même Notre-Dame de Constance. Donc on a une vraie position centrale depuis la terrasse du musée.
Vous avez un point commun avec Notre-Dame de Paris, vous avez un point commun avec bien des lieux. Il faut l'appeler, quand le musée va ouvrir, on va dire que c'est un musée 5.0
Oui, c'est ça, on est à Ville 5 @, donc on peut dire 5.0. C'est ça. Alors, ce projet de musée en réalité augmentée n'est pas créé tout seul, hein. On s'adosse aux compétences d'entreprises qui sont déjà bien installées dans le secteur, à savoir donc Istoveri, qui est plus qu'une start-up maintenant, qui a équipé notamment le château de Chambord, le château Chinon, le donjon des Loches ou même le palais des Papes hein, à Avignon, et qui a voilà, qui propose déjà cette solution de rendre visible ce qui ne l'est plus ailleurs et qui demain interviendra sur Bormes.
Donc ça veut dire qu'on avec la tablette tactile, on n'a même plus besoin du musée, il suffit d'avoir une tablette tactile en fait.
Non, pas vraiment, puisque justement le musée proposera justement un parallèle entre le Bormes d'aujourd'hui et le Bormes d'hier qui sera présenté dans la tablette. Et puis au-delà de ça, ce sera une vraie invitation à aller parcourir le village en ayant en tête voilà, cette histoire qui a bâti la commune. Et puis comme on le sait, Bormes est une commune un peu escarpée sur un village perché. Donc c'est aussi rendre accessible tout ce patrimoine depuis un lieu qui lui sera accessible facilement au public, même en situation de handicap, hein. Voilà, rendre accessible tout ce patrimoine-là.
Vous savez qu'hier j'étais avec Jackie dans le centre-ville, avec Alain Guillot, le fondateur de la Fête des Lumières, et j'ai eu le sentiment quand même qu'à Bormes, il y avait tous les habitants qui étaient un peu impliqués. Et là ça va être le cas aussi.
Oui, tout à fait. Alors, dès aujourd'hui, dès le début du projet, en fait, bien sûr, toute l'équipe municipale a été impliquée dans le projet. Nous avons aussi souhaité faire intervenir les habitants de Bormes dans ce projet-là en devenant acteurs des reconstitutions historiques. Donc, on a, de manière assez amusante, photographié des profils très connus sur Bormes, hein, pour ne pas les citer, Guy Geda, par exemple. On annonce déjà ce projet-là et on le co-construit avec les établissements scolaires et les centres de loisirs en leur proposant dès à présent de s'exprimer sur ce expliquer un musée idéal pour eux et en leur présentant eh bien, la fonction d'un musée, comment on en crée un, comment on crée une exposition, etc. Donc dès à présent, de les sensibiliser à comment on arrive à créer aujourd'hui un musée et quels sont ses défis.
Allez, dernière question, mais bon, il y a quelque chose qui... Alors, soit c'est déroutant, soit c'est réjouissant. Moi, je suis en train de me régaler ici en ce moment. Mais il y a, comment est-ce qu'on peut dire, il y a le Borm hors saison et le Borm en pleine saison. Waouh.
Alors moi, oui, c'est
d'un point de vue... Il y a combien d'habitants à Borm hors saison?
On a à peu près un peu plus de 8000 habitants à l'année, avec une explosion bien sûr en saison. Mais la commune vit toute l'année. Hein, on a une programmation qui s'étend du début janvier jusqu'à la fin de l'année, bien évidemment, avec différents services qui œuvrent là-dessus. Donc, bien sûr, service événementiel qui programme avec l'Office de tourisme, qui programme des manifestations incontournables, telles que Mimosalia, le Corso, toutes les manifestations d'été, et puis même à la Toussaint, des belles manifestations autour d'Halloween, etc. Et puis le service culturel qui est là aussi. Programme des manifestations tournées autour du théâtre vivant, autour du livre, puisque par exemple en été on a aussi la nuit du livre, et puis des concerts classiques et jazz aussi de début juillet jusqu'à début octobre, et d'avril jusqu'à fin octobre aussi, des expositions d'artistes locaux pour leur permettre d'exposer. Donc tout ça sur Borm. Il y a beaucoup d'activités sur Borm.
On est au mois d'octobre 2022. Dans 5 minutes, les portes vont rouvrir. Vous êtes dans quel état?
Je crois que je ne pourrai plus vraiment m'exprimer, mais que tout ira bien parce que on a une équipe, tous les services sont mobilisés autour de ce projet-là. C'est un des projets phares du mandat. On a la conscience d'avoir la chance d'être à l'honneur. La culture n'est pas toujours à cette position-là. Donc, c'est très dynamisant et on a beaucoup de confiance dans ce projet-là qui sur lequel tous les yeux sont rivés pour l'instant sur la commune.
Comment on fait pour trouver des informations?
Alors, pour l'heure, vous pouvez tout à fait nous contacter à l'adresse musée@ville-du-6borm.fr. Bientôt, un site internet dédié au musée va voir le jour. Et puis, en attendant, si vous avez l'envie d'avoir plus d'informations sur Borm, vous avez le site de la ville ou de l'Office de tourisme, bien évidemment.
Je vous remercie.
Merci à vous.